La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Le projet de révision constitutionnelle en Guinée, la zone de libre-échange continentale africaine, l'insécurité au Niger, la Coupe d'Afrique des Nations bien évidemment, puisqu'on connaît désormais l'affiche des demi-finales. Voilà quelques-uns des sujets qui ne vous laissent pas indifférents, des sujets qui nous arrivent au standard au 33 9 693 693 70, des sujets commentés sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. C'est la libre antenne durant les 20 prochaines minutes. Mais d'abord, pour commencer, Xavier Besson en parlait à l'instant, nous allons revenir sur cette rencontre organisée hier par Emmanuel Macron à l'Élysée avec les diasporas africaines. Vous avez pu suivre d'ailleurs sur RFI une grande partie de ce dialogue entre le président Macron, son homologue ghanéen, face à environ 350-400 personnes. Ce dialogue se voulait direct, sans tabou. C'était un peu une rencontre conçue, rappelez-vous, en écho au discours du président Macron à Ouagadougou en 2017, sauf que là, c'était devant des étudiants. Prince, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes gabonais de la région parisienne. En tant que membre de la diaspora, évidemment, vous n'êtes pas, ça ne vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron rencontrait les diasporas africaines hier. Qu'avez-vous pensé de ce rendez-vous, de ce dialogue ?
Alors, Juan, moi, je crois que le président Macron a fait preuve d'un grand courage politique inédit en France en soumettant à la discussion publique la question de la relation entre l'Afrique et la France. Doit-on cependant considérer que c'est de sa part une volonté réelle de sortir des pratiques dites de la France-Afrique qui rendent cette relation opaque et difficile à assumer dans ce qui y apparaît comme des travers ? Ce n'est pas encore tout à fait certain, puisque la rencontre d'hier a finalement, elle est finalement apparue comme un rendez-vous manqué.
Pourquoi un rendez-vous manqué ?
Un rendez-vous manqué parce que les interlocuteurs n'étaient pas les bons. Pourquoi un président d'un pays anglophone qui n'a aucune implication dans la relation entre la France et l'Afrique, telle que le problème se pose, en fait, disons, telle que celle-ci se pose ou devrait être soumise à la discussion.
Enfin, excusez-moi, j'entends, Prince, vous faites partie de ceux qui disent pourquoi organiser ce dialogue avec le président ghanéen, certes d'un pays anglophone, mais lui-même étant francophone, visiblement il parle très bien, il s'exprime très bien en français. Mais ça ne vous a pas échappé, Prince, que depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, il ne souhaite plus que la France parle à l'Afrique francophone uniquement, mais à toute l'Afrique, c'est-à-dire à l'Afrique francophone et anglophone.
Oui, absolument. D'ailleurs, j'allais mettre un bémol à la question que je posais, pourquoi un président ghanéen ? Pourquoi ? Parce que la France, effectivement, a intérêt à diversifier ses champs d'interlocuteurs en Afrique. Mais on a vu pendant le débat qu'il y avait une surreprésentation de l'Afrique de l'Ouest en dehors des pays anglophones et une absence quasi totale de l'Afrique centrale où se pose de véritables défis pour la relation entre la France et l'Afrique. Et ces défis, justement, sont ceux du droit et de la gouvernance qui ont été les grands absents de ce débat.
Donc pour vous, Prince, pour vous, il y a eu donc une erreur de casting, si vous me permettez cet anglicisme, c'est-à-dire dans le choix des invités. Alors parmi les invités, il y avait des cadres, il y avait des entrepreneurs, il y avait des membres d'associations, il y avait des personnalités connues également. Pour revenir au fond, le fond étant que désormais la présidence de la République française compte sur la diaspora, sur les diasporas pour essayer de donner un nouveau souffle aux relations entre la France et les pays africains. Vous-même, vous êtes membre de la diaspora. Qu'auriez-vous souhaité dire hier au président de la République si vous aviez eu la possibilité ?
Moi, le problème que j'aurais mis en avant et celui dont je viens de parler, c'est-à-dire la gouvernance. La France a une histoire commune avec une grande partie de l'Afrique. Nous passons beaucoup de temps à ressasser cette histoire, à essayer de voir comment ceux-ci ont mal fait et ceux-là sont des pleurnicheurs. Nous restons sur l'histoire. Il faut écrire l'avenir de la relation entre l'Afrique et la France, ces anciennes colonies, notamment parce que si nous ne le faisons pas maintenant, cela sera reproché et à la France et aux Africains. Alors, une tribune comme celle que Macron vient d'ouvrir est une tribune très intéressante. Et moi, je me dis, il faudrait que ces rencontres se poursuivent, mais que les vraies questions se posent à l'intérieur de ces rencontres-là.
Enfin, lui-même a dit être ouvert à tous les sujets. Aucun sujet n'était tabou. Il a même dit en introduction que l'avenir du franc CFA pouvait être discuté lors de ce face-à-face hier. Prince, restez en ligne. J'ai un peu comme l'impression que si je ne vous coupais pas la parole, vous pourriez vous-même combler les 20 minutes de la Libre Antenne. Je vous présente Gilles, il est Camerounais de la région parisienne. Bonjour Gilles.
Bonjour Juan, bonjour à tout le monde, bonjour Prince.
Vous aussi, vous avez suivi ce dialogue entre le président Macron et les diasporas africaines. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre?
Déjà d'entrée, je me pose une question. Qui est la diaspora? Sur quelle base on a choisi les personnes qui ont représenté la diaspora? Ces personnes sont, est-ce que c'est le petit peuple qui travaille pour l'Afrique et qui travaille pour la France? Est-ce que c'est les hauts cadres qui sont en France et qui ne savent même pas ce qu'est l'Afrique? Qu'est-ce qu'elle va apporter à l'Afrique?
Ouais. Gilles, vous-même, vous aviez le sentiment de ne pas être représenté hier?
J'ai toujours le sentiment de ne pas être représenté dans cette chose-là. C'est-à-dire que moi je suis cadre. Je parle pas au nom des cadres, mais je suis cadre.
Oui, il y avait des cadres hier, excusez-moi, à l'Élysée.
Oui, mais je parle pas au nom des cadres. Je suis en train de parler au nom du petit peuple d'Afrique. C'est-à-dire que quand ces personnes-là sont là, elles parlent de quoi? Au Cameroun, par exemple, je vous prends un exemple, parlant de la diaspora. Quelqu'un a parlé de la Chine tout à l'heure. On parle de la diaspora. Au Cameroun, la diaspora ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que on n'accepte pas la double nationalité. Moi, qui arrive en tant que Français au Cameroun, je veux dire Français d'origine camerounaise, je ne peux pas investir, je ne peux rien faire au Cameroun. Qu'est-ce que la France, cette réunion-là, peut apporter à cette situation? Mais le petit peuple qui est là, qui travaille dans des chambres d'hôtel, qui travaille ici et là, c'est ce petit peuple-là qui est en réalité le socle de sa terre. Ce qui se passe aujourd'hui, on a appelé ces gens-là pour faire constater la perte de vitesse de la France par rapport au départ de beaucoup de pays d'Africains, d'Afrique de l'Ouest, du franc CFA, des pas potentiels. Aujourd'hui, la France se rend compte qu'il faut avoir de nouveaux néocolonialistes pour aller dire aux Africains, écoutez, la France est là pour vous. C'est ça le problème.
Oui. Donc vous avez l'impression que le président Macron veut se servir de la diaspora pour sa politique africaine?
Ça c'est ce qu'il fait.
Mais uniquement dans le sens de la France et pas dans le sens partenariat d'égal à égal.
Ce partenariat aurait dû exister depuis plusieurs années. Je ne vais pas reprocher à M. Macron de n'avoir pas fait oui. depuis des années ce que les autres n'ont pas fait. Il vient d'arriver, il n'était pas là. Par contre, ce que je dis, je parle de la France. Aujourd'hui, encore en France, on a étiqueté les gens. À partir du moment où vous êtes un noir, vous êtes d'origine africaine, vous êtes voleurs de voitures, trafiquants de drogue. Même ces cadres qui sont là, ils sont catalogués comme ça. Il faut déjà éduquer les peuples avec lesquels on va travailler. C'est-à-dire que l'Afrique et la France travaillent ensemble, que les peuples soient éduqués, qu'on ne soit pas forcément catalogués. La diaspora ne sert à rien. Moi, quand je vais en Afrique, je vais au Cameroun, j'y vais une fois tous les 3 mois, je suis catalogué comme le blanc.
Bon, Gilles, je vous interromps, parce que là aussi, j'ai comme l'impression que si je vous laissais le micro, vous iriez jusqu'au bout des 20 minutes. On est déjà à un peu moins de la moitié de l'émission et des sujets, nous en avons des dizaines. Donc, merci à tous les deux d'avoir contribué à la réflexion, Prince et Gilles de la région parisienne. Sylver nous appelle depuis plusieurs semaines pour nous interpeller sur la forte hausse des prix du manioc sur les marchés de Bangui. Bonjour Sylver.
Bonjour Monsieur Roy de Gouvin.
Un sujet qui peut sembler comme ça anodin, mais qui vous inquiète, vous, qui inquiète une grande partie de la population de Bangui, la capitale centrafricaine, et qui est pris très au sérieux par la FAO. Que se passe-t-il, Sylvain? Racontez-nous.
Monsieur Roy, il se passe que, vu tous les groupes armés qui s'unissent sur la région, les préfectures de la République centrafricaine, les cultivateurs ne valent pas leurs activités et le gouvernement ne mène pas d'efforts pour pouvoir leur venir en aide, à les surveiller, à protéger leur région. C'est dommage que ça fait depuis un moment que le prix de manioc n'a fait que doubler de prix. Et la rareté se fait sentir dans la population.
Oui. Le manioc, faut le rappeler, c'est un aliment de base en République centrafricaine. Quand vous dites que les prix ont doublé, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis?
Vous savez que il y a deux saisons chez nous, il y a la saison pluvieuse et la saison de sèche. Nous sommes maintenant à la saison pluvieuse. Ça craint que ces denrées-là ne soient rares sur le marché parce que il pleut et les cultivateurs ne se sentant plus en sécurité,
oui.
Ils vont plus au champ, ça fait que ça devient difficile.
Bien sûr. Et vous l'achetez à combien, Silver, à combien l'achetez-vous aujourd'hui le manioc?
Le prix du manioc aujourd'hui est à pratiquement 4000 francs. Quand on négocie, on est à 3750.
Et initialement,
ça devient vraiment compliqué.
Ça devient compliqué, je comprends bien, puisque les prix augmentent. Initialement, avant la crise, on va dire, avant qu'il ne manque du manioc sur le marché, quel était le prix?
Le prix de la cuvette de manioc était à 2000 francs.
Ah oui, alors on est passé de, oui, effectivement, donc ça a doublé, on est passé de 2000 francs CFA à plus de 4000 francs CFA, 3007 quand vous arrivez à bien négocier. Qu'avez-vous envie de dire, Silver, pour conclure?
Je demande vraiment au gouvernement déjà de s'y mettre dans les régions où nous sommes où les gens peuvent aller librement au champ, de créer des ONG. Hein, de créer des ONG et de mettre les moyens à disposition pour pouvoir produire le manioc. Déjà, même si ça ne va pas être suffisant, déjà de que ça soit facile à retrouver sur le marché, ce serait vraiment un plus pour la population qui, vu tout ce qui se passe, est déjà à l'agonie.
Évidemment.
On les laisse en plus, je pense que la situation va s'empirer.
Il y a vraiment une situation, une crainte en tout cas pour la sécurité alimentaire à Bangui. C'est ce que souligne la FAO face à ce manque de manioc sur les marchés de la capitale centrafricaine. Merci Silver d'avoir insisté. Je sais que ça fait 3 semaines que vous appelez pour nous interpeller sur ce sujet. Voilà, on est limité par le temps, 20 minutes. Mais voilà, un jour ou l'autre, on y arrive et on peut s'exprimer sur l'antenne de RFI. À bientôt et bon courage. Silver, 10h52 ici à Paris. Voilà un document qui continue de susciter des réactions. Un document du ministère guinéen des Affaires étrangères qui circule sur les réseaux sociaux. Et dans cette note, les ambassadeurs de Guinée, à travers le monde, sont invités à faire la promotion de la nouvelle constitution. Alors pour l'opposition, il n'y a pas de doute, il s'agit là d'une manœuvre pour permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de ses 2 mandats. Bonjour Mamadou.
Bonjour Rouen et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Conakry dans la capitale guinéenne et comme l'opposition, vous dites que c'est une stratégie qu'incontestablement dans les prochains mois, il y aura une nouvelle constitution dans votre pays.
Oui, c'est une tentative, Rouen, le président Alpha Condé qui refuse pour l'instant de s'exprimer est en train de poser des actes qui renvoient donc à cette volonté de nous doter d'une nouvelle constitution. Ce qui n'est pas du goût d'une bonne partie de la population. Et vous avez parlé de cette note de l'ambassadeur Mamadi Touré, et donc que ça puisse venir d'une autorité de ce genre montre exactement que c'est un acte officiel. Et tout dernièrement, c'est le président de la République lui-même lors d'un conseil des ministres qui a dit qu'il prend acte de la position exprimée par l'ensemble des membres du gouvernement,
oui.
Qui souhaitent donc l'accompagner dans cette nouvelle constitution.
Alors, mais attendez, mais Mamadou, vous allez un peu vite en besogne. Qui dit nouvelle constitution ne dit pas forcément remettre les compteurs à zéro pour le président Alpha Condé. À aucun moment dans ce document que vous pouvez lire, hein. Moi je l'ai lu facilement, il fait 12 pages, à aucun moment cette note ne fait référence à une éventuelle candidature à un 3e mandat.
Oui, mais vous savez, Juan, Alpha Condé c'est un renard politique. D'abord au début on nous parlait de la modification de la constitution actuelle qui a été adoptée en 2010 par le Conseil national de la transition. Maintenant qu'on a vu qu'il y a un verrou, on a mis de côté cette histoire de modification pour nous parler d'une nouvelle constitution. Et Alpha Condé, dans une interview qu'il a accordée à la presse sénégalaise, s'est mis à interpréter les choses de façon ambiguë, laissant montrer que s'il y a une nouvelle constitution, je ne retiens même plus la phrase tellement qu'il y a des tournures dedans. Mais en fait, il veut nous montrer que la Guinée n'a pas une constitution solide, il faut en avoir une.
Bon.
Et il est aujourd'hui déterminé à rester au pouvoir au-delà de 2020.
C'est l'interprétation que vous faites de ces propos, et on les entend, on les respecte bien évidemment. Il y avait d'autres auditeurs hein, qui souhaitaient apporter leur contribution, mais là aussi, vraiment, c'est promis, je le dis chaque semaine, mais on aura l'occasion d'organiser un nouveau débat sur cette éventuelle réforme de la Constitution en Guinée. Je voulais qu'on termine tout de même cette libre antenne par le sujet qui a suscité le plus de réactions cette semaine au Standard et sur les réseaux sociaux, la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour Abdou.
Bonjour Juan, bonjour à l'ensemble des auditeurs.
Vous êtes à Dakar, vous êtes Sénégalais, et pour vous, il n'y a pas de doute, c'est l'année du Sénégal.
Oui Juan, cette année vraiment, c'est l'année du Sénégal, parce que Juan, après tant d'années de malédiction, après tant d'années où on est passé à côté, cette année je pense que ce sera la bonne, parce que on a l'ensemble des conditions qui sont réunies. Le seul problème qui faisait défaut au Sénégal a été apparemment résolu, c'est le mental.
Oui.
Donc, le mental, cette question-là a été réglée. En plus, Juan, s'il vous plaît, il y a la VAR. Juan, la VAR, c'est la révolution dans le football africain.
La vidéo. La vidéo assistance aucune... arbitrage.
Oui. Voilà. Il n'y a aucune possibilité maintenant pour les arbitres de truquer des matchs, d'inverser le coup des yeux, parce que vous savez, Juan, en Afrique, les arbitres sont parfois de très mauvaise foi. Il y a eu des cas manifestes de corruption où la FIFA a été même obligée de rejouer certains matchs.
Oui, enfin on n'en est pas là, Abdou, on n'en est pas à rejouer des matchs de l'édition 2019. Certes, au Sénégal, on a pu entendre des critiques concernant l'arbitrage, et notamment dans la bouche d'Aliou Cissé, le sélectionneur. Vous dites tout est là pour que les Lions puissent remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'a pas été simple pour eux quand même d'obtenir la qualification. Il a fallu attendre la 70e minute et le but d'Idrissa Sagueï pour que le Sénégal soit délivré. Donc c'est quand même compliqué face, avec tout le respect qu'on a pour les écureuils, mais ça a quand même été compliqué pour vous.
Effectivement, parce que nous on savait que le Bénin, l'Ouganda, ce sont des équipes qui savaient qu'ils n'ont aucune chance contre le Sénégal. La seule possibilité pour eux de rester dans le match, c'est refuser de jouer, être en bloc derrière et espérer le tir au but. Et ça, c'est une loterie pour gagner. Raison pour laquelle les matchs du Sénégal ont été très difficiles en quart de finale et au huitième de finale. Parce que c'est des équipes qui savent qu'en faisant le jeu, ils n'ont aucune chance face au Sénégal. Donc la seule solution qui reste à eux,
c'est de ne pas jouer.
En bloc derrière.
Alors,
voilà.
Attendez, là aussi, vous avez tous envie de parler, hein, c'est fou. Sénégal-Tunisie, un pronostic.
Oh, moi, je vois un 2-0 pour le Sénégal.
2-0 pour le Sénégal. C'est noté. Ne raccrochez pas, Abdou. Alain est avec nous. Il est à Ouagadougou. Bonjour, Alain.
Bonjour.
Vous aviez envie de revenir sur le parcours exceptionnel de Madagascar. Malheureusement, pour les Malgaches éliminés, hier, après une victoire sans appel de la Tunisie, 3-0. Que retenez-vous de ce parcours?
Je retiens du parcours de l'équipe malgache, un parcours exceptionnel. C'est une équipe africaine qui nous a impressionné. Pour une première participation à la CAN, elle nous a montré de belles choses et elle a montré qu'elle pouvait elle aussi utiliser son mot. Elle avait aussi ses qualités à faire valoir dans les équipes et dans les grandes compétitions.
On peut être le petit pousset et terminer premier de la phase de poule. On peut être le petit pousset et arriver en quart de finale.
En quart de finale, exactement. Ça veut dire, l'élimination d'hier a été vraiment lamentable, mais...
C'est comme ça. C'est le football. Il faut le reconnaître, les Tunisiens étaient quand même plus forts. Un pronostic pour la suite de la compétition?
Je pense que 1-2 à 1 ou Sénégal-Tunisie.
Ah, Sénégal-Tunisie 2-1.
Sénégal.
Très bien. On aura l'occasion de jouer les prolongations lundi, puisque vous pourrez suivre les demi-finales, évidemment, sur l'antenne de RFI dimanche. Soyez nombreux, évidemment, à l'écoute. Je perds ma voix. Pour tout vous dire, j'ai un grand chat dans la gorge. Je vais donc tout de suite donner le micro.
J'arrive à votre secours, Juan.
Merci, Caroline.
Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler.